La première chose, c'est que le titre n'est pas le même. Depuis de travailler ce thème, j'ai vérifié que c'est un temps très, très long. Ici, c'est 1910, le début de la République, et 1933, qui c'est précisément le début, mais de l'État nouveau. Constitution et organisation de la GNR, Garde nationale républicaine. La République a été proclamée officiellement au Portugal le 5 octobre 1910. La Garde municipale de Lisbonne soutient les forces monarchistes, ce qui conduit les marins sympathisants de la cause républicaine à attaquer leur caserne dans le quartier de Rossio où se trouvait le général Gauguin, commandant de la première division de cette force. Le matin du 5 octobre, il signale la reddition. Ainsi, il n'est pas étonnant que dès le 12 octobre, le gouvernement provisoire ait décrété dissoute les gardes municipales de Lisbonne et de Porto et qu'il les remplace dans ces deux villes par une nouvelle force, la garde républicaine. Il est tout à fait compréhensible que le régime voulût remplacer une force qui lui était hostile par une qui lui serait favorable. De ce fait, cette nouvelle force sera installée dans les casernes de la garde municipale et recevra l'armement, l'équipement, les animaux et d'autres instruments qui avaient appartenu à celle-ci. Aussi, un nombre élevé d'éléments de la garde municipale sont passés à la nouvelle force de police et les pensions de retraite des gardes seront acquittées par le budget de la garde républicaine. Le diplôme légal que créa la garde républicaine envisageait d'entendre la présence d'un corps de sécurité à l'ensemble du pays pour assurer la défense de la République, d'où son nom garde nationale républicaine. De ce sens, le ministre de l'Intérieur, qui tutelle cette force, publie le 29 octobre 1910 le règlement de la garde républicaine de Lisbonne et de Porto qui conférera à cette institution un caractère militaire et, par ce fait, soumettra leurs agents au code de justice militaire et au règlement disciplinaire de l'armée de terre. Donnant suite aux dispositions organisationnelles prévues précédemment, le diplôme du 4 mai 1911 créa la garde nationale républicaine. L'intention était, comme le nom qu'on lui attribua le sous-entendait, de créer une force dont la juridiction s'étendrait à l'ensemble du pays jusqu'aux recoins les plus profonds des campagnes. Le personnel de la garde républicaine de Lisbonne et de Porto a été incorporé dans la GNR. Le général de brigade à la réserve, Ernesto de Ribeiro, commandant de la garde républicaine de Lisboa et de Porto, fut nommé commandant de la garde nationale républicaine car, dans sa qualité de commandant de la garde républicaine, il avait fait preuve d'intelligence et de zèle, raison à laquelle s'ajoute son implication dans l'implantation de la République. Dans le préambule du décret de 4 mai 1911, il est affirmé que, vous citez, les peuples viennent à réclamer depuis longtemps du manque d'une police rurale pour assurer la libre circulation des routes et des chemins et pour protéger leur propriété des fréquents vols pratiqués par vagabonds et malfaiteurs qui pillent les fruits et saccagent les cultures. Pardon. Les corps de police civile qui existaient alors avaient leur action circonscrite au chef-lieu des districts, ce qui amène les populations rurales à demander une protection policière, prérogative qui, d'après le législateur, était apanage des nations cultes. De sorte que, dès 1911, la GNR, Garde nationale républicaine, revenait essentiellement des fonctions de sécurité, tandis que, car la police civique était réservée, la prévention et la investigation criminelle, ainsi que les démarches auprès des services judiciaires. Il faut cependant souligner que l'implantation de la GNR ne se fait pas sur ensemble du territoire national en même temps. Les fonctions de sécurité qui reviennent à la GNR continuent cependant à être exercées par l'armée. Lors de la séance du 26 décembre 1911, de la Chambre des députés, un député attira l'attention sur cette situation, rappelant que l'armée exerçait des fonctions qui n'étaient pas les siennes, telles que la garde des prisons, la garde des couvents, la conduction des prisonniers ou encore les gardes d'honneur. Il ajoutait que les forces militaires exerçaient un service supérieur au nombre des effectifs. En janvier 1911, en plus de Lisbonne et de Porto, la GNR n'était implantée que dans 3 districts de la province d'Alentejo. C'est-à-dire Beja, Évora et Porto Alegre. Les 3 sont la province d'Alentejo, les 3 sont au sud du pays. Seulement en 1912, la GNR était seulement implantée en ces 3 districts, évidemment, Lisbonne aussi et Porto. Pourquoi? L'évolution de l'activité de pluie dans ces districts est très positive, comme il est possible de dégager l'extrait de l'intervention du député Paiva Gomes à la Chambre. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, effectivement, comme le disent aussi nos informations, avec l'organisation de la garde nationale républicaine à Alentejo, les larrons et les vagabonds de cette région se sont déplacés vers les conseils limitres, les conseils communes, devenant un danger permanent pour les propriétés situées dans la zone dans laquelle s'entend l'influence des compagnies prospères, car il est courant, en plus de préjudices soumis, la pratique de vol et de la gradation des cultures. Lors d'une nouvelle intervention, ce même député ajoute que la garde allait dans le sud, c'est la réponse, principalement pour défendre les grands propriétaires qui se voyaient forcés à donner des aumônes de 300 000 reis en monnaie. L'instabilité, la peur et la perte patrimoniale ressentie par les grands propriétaires d'Alentejo a été également évoquée par le député Pestan de la forme suivante. Dans le sud, les propriétés sont volées par des indigents et chaque indigent que demande l'aumône est un voleur que vole ce qu'il peut. Il n'est pas possible pour le moment d'organiser la garde républicaine dans tous les pays, mais elle doit s'organiser petit à petit comme on le pourra. Tous les agriculteurs viennent à être victimes du manque d'organisation de la garde républicaine. Réforme de 1913. Le ministère présidé par Afonso Costa a été investi le 9 janvier 1913. Dès lors, il a cherché à orienter son action par des mesures qui visaient à rétablir la confiance du peuple portugais. En vue du rétablissement financier du pays, le 15 mars 1913, des mesures fiscales ont été adoptées dont les résultats se sont traduits par un superavit des comptes publics à la fin de l'année fiscale 1913. Cependant, la situation politique restait assez instable, comme le prouve l'insurrection que le 27 avril 1913 éclate à Lisbonne. On commence à comprendre de façon plus précise comment les forces de police peuvent être déterminantes par le maintien de l'ordre. Il était par conséquent, urgent de prendre des mesures pour l'organisation de la GNR, étant donné que celle adoptée jusqu'alors n'avait aucune dimension conjoncturelle. Dans ce but, le 1er juillet 1913, est publiée la loi numéro 1, dont le premier article décrète que est organisé un corps spécial de troupes pour veiller à la sécurité publique, au maintien de l'ordre et à la protection des propriétés publiques et privées sur l'ensemble du pays. Et plus de ces nombreuses tâches, il revient également à la GNR la poursuite des vagabonds afin de les empêcher d'exploiter la charité, mais même s'ils le font sur le prétexte de recherche de travail. Il est reconnu à la cavalerie une importance croissante. C'est ainsi que l'article 18 stipule que les troupes seront composées d'escadrons de cavalerie et de 6 bataillons d'infanterie. Il est également déterminé que, au fur et à mesure, les bataillons de la GNR seront organisés les divers corps de police, et les divers corps de la police civile seront réduits ou supprimés dans les districts où leur présence serait devenue dispensable. À la fin de septembre 1913, Afonso Costa fut victime d'un attentat manqué lorsqu'il se trouvait dans un hôtel de la Praia de Missanche. À la mi-novembre, se sont tenues des élections du Parti démocratique, c'est un parti de gauche, obtenant une écrasante victoire avec 33 des 30 sièges de l'Assemblée. Cependant, les résultats n'ont pas été acceptés. De façon complémentaire, le conseil de politique militaire avait évolué. Étant donné que le décret du 6 juin 1914 considère que la défense avait une composante extérieure et une autre intérieure. Cela signifiait que l'armée s'arrogeait la défense intérieure en plus de l'extérieur, celle qui lui revenait déjà. Défense intérieure qui avait été attribuée à la GNR par la législation de 1911. Mais, au vu du fait que la GNR ne disposait pas de son propre cadre d'officier, l'armée s'accapare facilement de cette fonction en occupant les postes d'officier de la GNR, celle-ci devenant un bras de l'armée. Les difficultés aumentent de plus en plus. À la montée du coût de la vie, les syndicats répondent par l'intensification de la contestation. Les positions se durcissent, à tel point que le meeting organisé par les ouvriers du bâtiment, tenu en 1917 au parc Édouard VII, se termine par plusieurs mortes et blessés. L'instabilité et la conflictualité sociale s'aggravent de jour en jour. Les gouvernants répondent avec une répression aussi brutale que futile. En août 1917, recommence la persécution à l'Église, l'évêque de Porto et le patriarche de Lisbonne sont expulsés. La situation interne est assez instable, aggravée par l'évolution des événements internationaux. Face à ce contexte, il est décidé que les forces de la GNR, ainsi que les autres forces de police, opéreront seulement à l'intérieur du Portugal et ne participeront pas à des missions à l'extérieur du pays, car elles s'avéraient nécessaires au renforcement de l'ordre public, au nettoyage et à l'obstruction des artères de la capitale. Tirant profit de cette conjoncture sociologiquement favorable au changement politique, le 5 décembre 1917, le major Sidonio Paz, lié au Parti Unioniste, l'autre parti, comme je vous ai dit, sont deux partis importants à ce temps au Portugal, le démocratique et le unioniste, c'est ça, celle-ci, prend la tête d'une révolte militaire. Il compte sur le soutien de quelques unités de Lisbonne, tandis que le gouvernement est défendu par la marine, la GNR et de la police. Je pense qu'il est important de friser que la GNR est liée au Parti démocratique, non au Parti unioniste. Je pense que c'est important pour voir ce qui vient. Le 8 décembre, le gouvernement finit par renoncer. Une junte composée des révolutionnaires victoriaux est alors constituée et prend le pouvoir, contraignant à l'exil le président de la République, Bernardino Machado. La réforme de 1918 génère des polices à vocation spécifique dans les domaines conquête de l'action. Ce n'est pas la garde nationale républicaine, mais c'est de la police. Les polices ont été créées, la création d'une police politique met en échec cette stratégie. Parallèlement, le commandant centralisé permet leur gestion de façon imbriquée. Les mesures législatives de l'année 1918 rendent perceptible le souhait de mettre les différentes institutions policières au service du gouvernement de Sidonie Paes. La GNR est également la cible des mesures réorganisatrices. Le décret numéro 4179 du 20 avril 1918 reconnaissait à cette force le fait d'être un excellent élément d'ordre public et un garant contre leur perturbation. Cependant, et selon ce même diplôme, les effectifs sont insuffisants, notamment à Lisbonne, où il reste à organiser un certain nombre d'unités créées par la loi du 1er juillet 1913, et même après la mise en place de ces unités, leur nombre restera insuffisant, étant donné que l'entendu de la ville est de plus en plus. Afin d'adapter le recrutement de la GNR, et y sont transférés les soldats actifs de l'armée de terre et de la marine, la priorité étant donnée à ceux qui savent lire, écrire et compter, et dont le comportement était tenu pour bon. Malgré cette panoplie de mesures législatives de restructuration des forces de police, la Nouvelle République, c'est le nom, installée par Sidonie Paes, a eu une très brève durée, du 11 décembre 1917 au 14 décembre 1918, et a connu une série de révoltes et d'actes sanglants. Sidonie Paes lui-même a péri par un coup de fusil le 14 décembre 1918. Le début de l'année 1919 fut aussi marqué par divers conflits militaires, révolution de Saint-Alain, monarchie du Nord, révolte de Monsanto, ce qui provoque dans un très court espace de temps la succession et la chute d'une série de gouvernements. Un survol rapide sur les dépenses de l'État, je pense que c'est important de dire ces mêmes choses, de l'État portugais permet d'observer que, pendant la participation du Portugal de la Première Guerre mondiale, les dépenses militaires ont occupé le premier poste et qu'après 1919, les dépenses du ministère de l'Intérieur ont significativement augmenté, grippant à 7,6% du total du budget. On cherchait à faire face au problème d'ordre public. Les dépenses faites en faveur de la modernisation de l'armement de la GNR méritent d'être mises en relief. C'est ça? Malgré la participation portugaise à la guerre, le fait que le gouvernement soit de courte durée aggrave les difficultés économiques et financières de la nation. Le nombre de grèves et l'augmentation du coût de vie, sont montés en flèche. Le mécontentement social se fait sentir au niveau national. Par conséquent, il faut faire appel aux forces de police pour contrôler l'instabilité régnante. De cette situation découlera la nouvelle réorganisation. Le décret numéro 5568, qui promulgue la nouvelle réforme, reconnaît dans son préambule que cette même garde est l'institution de l'armée nationale qui, le mieux, par l'expérience acquise au long des années, pose assurer les gardes, la patrouille, la manutention de l'ordre public tant dans les villes que dans les zones rurales, et que la garde nationale républicaine nécessite depuis longtemps d'être augmentée et mieux répartie. Ainsi, dans les cas graves que découlent de l'altération de l'ordre public comme les révolutions, et afin d'empêcher et de juger promptement toute tentative d'insurrection contraire au régime républicain en vigueur, cette même garde devrait disposer de tous les éléments pour opérer avec la sécurité et la rapidité des plus absolus. De ces données ressort l'intention sous-jacente de doter la GNR d'une plus grande force militaire avec les renforcements du nombre d'escadrons de cavalerie, ainsi que de l'artillerie et des mitrailleuses lourdes. Le décret numéro 6952-27 septembre indique dans l'article 1er que la GNR constitue un corps, je parle de la situation 1920, un corps spécial de troupes destiné à veiller sur l'ensemble du continent et les îles au maintien de la sécurité et de l'ordre public. Et pour devise de l'honneur personnel, de la gloire de la patrie et du dévouement absolu à la République. Le pari d'augmenter le nombre d'effectifs de la police ainsi que de la GNR sous-tendant une concession stratégique de l'armée selon laquelle il ne fait pas avoir une armée permanente mais une armée de milice. Dans ces conditions, la sécurité publique revenait à la police et à l'ingénieur. Dans la continuité de cette logique, et malgré les difficultés financières, l'ingénieur continue à s'équiper. C'est ainsi qu'on programmait l'acquisition en France de 40 camions. Cependant, l'instabilité et le désordre social, on entend un tel degré que le président de la République pense que le chef d'état-major de l'ingénieur, lieutenant-colonel Liberato Pinto, lié au Parti démocratique, serait capable de concilier l'autorité publique et la démocratie parlementaire et le nomma président du nouveau gouvernement le 19 novembre 1920. Liberato Pinto se maintiendra en fonction jusqu'au 2 mars 1921, date à laquelle le gouvernement démissionne, le lieutenant-colonel étant accusé de concussion, jugé et condamné par le tribunal. Cet événement, auquel viennent s'ajouter les difficultés budgétaires, a suscité le mécontentement des fonctionnaires, des militaires de la GNR, d'autant plus que la rumeur d'une drastique réduction d'effectifs circulait. Dans le déroulement des événements du 14 d'octobre 1921, a lieu une nouvelle révolution dont la junte militaire, insurgée commandée par le colonel Manuel Maria Coelho, républicain assumé, qui plus est avait participé à l'organisation de la GNR. Cet événement connu sous le nom de Nuit sanglante, pendant lequel furent assassinés des chefs politiques, est interprété comme un acte d'haine et de vigilance de la part des marins et des chefs d'agénie contre les anciens responsables politiques proches des mouvances de droite, responsables des événements du 2 mars 1921 et des punitions qui s'en sont suivies. La nuit sanglante, réforme 1922, est perçu comme le résultat de l'importance croissante que la GNR venait à prendre, ainsi que des mesures de réarmement dont elle avait bénéficié. Cependant, et paradoxalement, cela conduira à une réflexion sur le besoin de réduction des effectifs de la GNR et de la capacité de sa force militaire. Après la victoire du Parti démocratique aux élections de janvier 1922, le nouveau gouvernement présidé par José Maria da Silva, tenant compte de ses présupposés, procédera à une nouvelle réforme de la GNR, institution qui avait une action déterminante dans le conflit et qui menaçait d'intervenir à nouveau. De son côté, l'armée veut avoir un rôle plus actif dans le contrôle de la situation. On est face à une confrontation dialectique d'affirmation des deux forces, GNR et l'armée de terre. La Chambre des députés commence à discuter la réforme de la GNR et pour cette même raison, l'intervention du député Victorine Guimarães mérite une attention toute particulière. D'après lui, tous les pays réclament et souhaitent la réforme de la GNR. Il ajoute ensuite que les événements malheureux survenus dernière dans notre pays ne permettent pas de concilier une quelconque façon d'agir. Mais plus loin, dans son discours, il fera une critique objective de la situation de la GNR, dont nous citons le texte pour sa clarté. La Garde nationale républicaine est un corps de police destiné à assurer l'ordre public et à protéger la vie des citoyens. Elle n'a pas pour mission de défendre le territoire national et pour cette raison, on ne sait pas pourquoi elle est dotée d'artillerie et de mitrailleuses lourdes, armes que devraient équiper seulement les unités de l'armée, c'est-à-dire une division parfaitement organisée. Ce n'est pas donc pas une force de police destinée à éviter des perturbations de l'ordre d'avoir des pièces d'artillerie, des obus, des mitrailleuses lourdes. Comme on peut remarquer, la cause de la défense de l'armée commence à gagner des sympathisants. En faveur de cette thèse, on allait que quand le désordre atteint à la gravité d'une guerre civile, alors l'État se doit employer de tous les moyens de défense dont il dispose et l'armée est appelée à intervenir et à assumer la fonction qui est la sienne en harmonie avec le serment prêtre de défendre le pays et la République. Le défenseur de cette thèse soutient non seulement qu'il est nécessaire de faire confiance à l'armée, dont les membres savent accomplir civiquement leur devoir, mais critique également la survalorisation des fonctions attribuées à la GNR. Certains iront même plus loin et insinuent que des secteurs de la GNR sont devenus une force sectaire au service des partis. C'est ce que vous avez dit à moi. Telle une garde prétorienne de quelques figures politiques de la République. D'après ces propos, il est nécessaire de reconnaître que dans toutes les forces, y compris l'armée de terre, la marine, la garde fiscale et la police, il y en a de bons défenseurs de la République. C'est dans ce climat de discussion sur le rôle attribué à la GNR que le 23 mars 1922 est publié le décret 8064 que réorganise cette force. La création du régiment de cavalerie, composé de 5 escadrons et d'introduction de moyens motorisés, fut la principale nouveauté de cette réforme. Dans cette préambule, il est affirmé que la réforme vise la modification de la structure de la GNR et la réduction des effectifs de façon à faire correspondre les fonctions qui lui sont confiées aux ressources du Trésor. Ce qui renforce la concession, car la GNR revenait la manutention de l'ordre basique et rationnable, étant donné que quand ce changement atteint un haut degré de gravité, l'intervention de l'armée est naturellement conseillée. Pour justifier cette option stratégique, on a recours aux situations analogues vécues dans les autres pays européens. Ainsi, on disait que, et citation, l'Espagne, notre voisine, nonobstant la magnifique organisation de sa garde civile, la France, avec sa garde républicaine et sa gendarmerie, l'Angleterre elle-même, malgré sa belle police, ont recours aux troupes de l'armée pour l'établissement de l'ordre, lorsque l'altération prend des proportions anormales. La réorganisation tenait compte des fonctions attribuées à la GNR et des ressources financières disponibles. Oh, je vais terminer. 2 minutes. Pardon. Merci, Monsieur le Président. Je suis... Le changement. C'est-à-dire que en 1926, je vais tenter de parler, les Îlements sidonistes liés au Parti unioniste, ils ont. À Braga a été un nouveau soulèvement. Les forces de l'opposition, un 4 février 1927, se révoltent contre la dictature. Cette révolte a été écrasée et a nommé un homme, que c'est le colonel Farinha Beirão, qui avait participé dans l'écrasement de la révolte 1927. Il fut nommé commandant général de la GNR. C'est-à-dire que c'est avec cet homme que va douter de la GNR d'une capacité de décision, intervention de grande efficace que la GNR portugaise, la Garde, va avoir un nouveau paradigme, un nouveau modèle d'actuation, comme je le dis, à un changement d'identité pour l'actuation. Rapidement, et pardon, parce que c'est un exemple de que la GNR va être suite. C'est un problème, en 1930, comme elle dit, quand la sécurité de la mine, des mines de Borralha, qui exploite le Wolfram, cuja la sede est ici à Paris, c'est pourquoi j'ai fait cette citation, les ouvriers licenciés font pression, intimidation, et ici, dans la légation de Portugal à Paris, ils demandent que dans cette ville, petite ville, Montalegre, il s'est ouvert une squadre de la GNR. Depuis ce moment, il faut terminer, Monsieur le Président, l'action de la GNR, c'est précisément surtout dans le monde rural. Et parce que dans les villes, les grandes villes, c'est la police de sécurité publique. Merci pour votre attention.